Chères auditrices et chers auditeurs, chers et chers collègues du Collège de France et du Louvre, et d'ailleurs, chers amis, mais aussi et surtout cher Jean-Luc Martinez, c'est un grand plaisir et un privilège pour moi ce matin de pouvoir partager l'introduction de la deuxième journée de notre colloque Le musée comme archive, de pouvoir partager cette introduction avec Jean-Luc Martinez et de rappeler en quelques mots rapides d'abord la généalogie de ce projet commun et mené vraiment et pensé et conçu main dans la main entre nos deux grandes institutions. Généalogie d'abord. Deuxièmement, je voudrais redire peut-être, mais même si c'est évident pour chacun, combien il est intéressant et puissant de s'intéresser à ces super cerveaux, à ces big brains que constituent les archives de musées ou les musées comme archives, et puis de donner à la fin très rapidement quelques indications de bibliographie qui encadrent notre propos. Alors, un mot sur la généalogie du projet et d'abord un mot de remerciement très sincère aux équipes scientifiques du Louvre, notamment à Nadine Mathieu, qui est la directrice de la recherche et des collections depuis 2019 au Louvre et à laquelle est associée Marie-Claire Le Bourdelès, qui est ingénieure d'études et coordinatrice de la recherche au Louvre. Elles deux, en commun avec les équipes du Collège de France et notamment avec Marie Tchernia, attachée de recherche temporaire au Collège, ont fait un travail extraordinaire, très professionnel et aussi qui a montré combien ces deux institutions sont capables de s'adapter à des conditions sanitaires extrêmement difficiles qui nous obligent à inventer de nouvelles formes de transmission. Non seulement le Collège, mais aussi le Louvre ont réussi depuis un an à continuer à rendre visible la recherche en marche, comme on le dit chez nous, la recherche en train de se faire, tant au Louvre qu'au Collège de France, par l'intermédiaire de YouTube notamment, et c'est fort. Et je voulais saluer leur travail. Donc cette équipe a pensé depuis quelques mois en commun les journées qui nous occupent depuis hier, et on peut dire que l'idée ou la naissance de l'idée de consacrer deux journées de travail au musée comme archive est une naissance à la fois physique, disons, et intellectuelle. Naissance physique, peut-être, parce que nombreux sommes-nous qui sommes aujourd'hui présents et qui allons parler, qui avons fait l'expérience réelle de travailler dans des archives de musée, et je pense notamment à tous ceux et à toutes celles qui ont travaillé dans la salle de lecture des archives du Louvre jusqu'au début des années 2000, un lieu avec une poésie, une poétique particulière, un esprit particulier, mais je pense aussi à ceux qui, comme mon collègue Neville Rollet, notamment à Berlin, ou moi-même, travaillons dans les archives des musées de Berlin. Ces archives sont des lieux qui, souvent, qui longtemps n'ont pas eu de place à part, n'ont pas étaient répartis dans différents départements et qui, depuis quelques années, dans un grand nombre d'institutions à l'échelle du monde, de musées, commencent à avoir des lieux propres, des lieux de travail, ou alors ont été réintégrés, comme c'est le cas du Louvre, aux archives nationales, en permettant un accès différent, un accès d'une qualité différente, qui a perdu peut-être un peu de sa poésie de cette salle de lecture étroite et forte, mais qui permet un accès vaste à la recherche sur les musées et à la recherche dans les musées. Donc, naissance physique en quelque sorte, souvenir aussi de ce travail dans les archives et de ce travail qui est aussi un travail d'avenir, mais aussi naissance intellectuelle liée au constat que nous faisons tous, que nous partageons, que les musées sont des machines à temps, des machines où différents temps sont liés. Le temps des objets, bien sûr. Qui est peut-être l'un des temps les plus importants du musée, c'est-à-dire où chaque objet apporte avec lui son époque, son contexte, sa culture, qui peut être extrêmement ancienne ou extrêmement récente en fonction des types de musées. Au Louvre, on commence avec des œuvres qui ont près de 9000 ans, notamment. Donc le temps de ces objets vient en contact dans les musées, et c'est pour ça qu'elles sont des machines à temps, avec le temps des visiteurs et des visiteuses, temps des visiteurs et des visiteuses qui, évidemment, fait entrer dans le musée des préoccupations, des contextes, des attitudes, des attentes différentes, tandis que le temps des objets, lui, reste constant. Et En plus de ces deux temps, il existe au musée un temps qui est plutôt invisible, qui est le troisième temps, le temps invisible, et qui est sans doute le temps des archives. C'est le moment où les œuvres sont arrivées au musée. Évidemment, une œuvre qui a 9000 ans n'est pas arrivée au musée il y a 9000 ans. Elle est arrivée à un moment précis de l'histoire, dans des conditions particulières, des conditions politiques, des conditions historiques, des conditions d'intérêt scientifique, des conditions d'histoire du goût. Et ce temps invisible est conservé, ou la mémoire de ce temps invisible est conservée en particulier dans les archives. Les objets eux-mêmes portent quelques traces du temps invisible, parfois ils ont un numéro d'inventaire, mais ces traces en général sont plutôt cachées par les musées. Les numéros d'inventaire sur les sculptures sont souvent sous les pieds ou derrière, en tout cas on les voit peu. Et ce sont bien souvent, plus que les objets tels qu'ils sont présentés, les archives qui nous informent sur ce second temps. Voilà pour la généalogie du projet. Donc, une équipe super professionnelle qui a travaillé ensemble, un besoin physique de rappeler combien les archives sont importantes et un besoin intellectuel de plonger dans ce deuxième temps. Maintenant, juste un mot sur l'intérêt qu'il y a à s'intéresser à ces cerveaux, à ces mémoires des institutions, ou de voir les musées eux-mêmes comme des lieux de mémoire de plusieurs époques imbriquées. Et ça me paraît extrêmement intéressant parce que, comme je le disais à l'instant, les archives, ou si on considère les musées comme archives, ça permet de rendre visibles des choses invisibles. On est accoutumé à considérer ou à entendre un discours qui est réel, mais qu'il faudrait peut-être nuancer sur les musées comme archives de l'humanité. Et si on adopte ce discours-là, on peut dire que dans ce cas-là, les archives, les musées sont les archives des archives de l'humanité. On voit bien la potentialisation qu'il y a. Elles sont les archives des archives de l'humanité parce qu'elles nous montrent les processus de sélection, de tri, d'appropriation, de travail scientifique, des pratiques technologiques, intellectuelles qui sont liées à ces objets, d'une part, et aussi parce qu'elles nous font voir tout ce qui fait vivre un musée, c'est-à-dire les gens, des directeurs, en général au masculin, jusqu'aux gardiennes et aux gardiens de salles qui ont toujours existé dans les musées depuis le 19e siècle et qui ont ce qu'on appelle les custodes aussi, qui ont un rôle important, mais qui existent jusqu'à aujourd'hui. Et puis, bien sûr, aussi les visiteurs, avec toutes les informations qu'on peut trouver dans les livres d'or des musées, etc., sur les pratiques, sur la venue, sur les rythmes, sur les attentes des visiteurs, d'une part, et d'autre part, aussi, dans une institution comme le Louvre, notamment, sur les artistes internationaux qui sont venus travailler dans l'institution. Donc, ces méga-archives, voir les musées et leurs archives comme une méga-mémoire de la manière dont notre humanité a choisi de faire de prendre une certaine humanité et d'en faire un patrimoine partagé par tous, me paraissent extrêmement intéressants. Et je finis, comme je l'avais annoncé, par quelques éléments de bibliographie qui sont en fait liés à ce que je viens de dire, et notamment à l'expérience physique du travail dans les archives du Louvre et dans d'autres archives. C'est pas évidemment, le Collège de France et le Louvre, aujourd'hui, dans nos deux journées, ne sont pas les premiers, évidemment, à travailler avec les archives, à penser les archives des musées. Et les archives elles-mêmes l'ont beaucoup fait. Je vous montre ici un des ouvrages qui a servi à un très grand nombre d'entre nous, le premier tome des trois tomes sur la naissance du musée du Louvre, qui est en fait une reproduction des textes les plus importants des premières années du Louvre, avec toutes les questions à la fois théoriques sur le musée, mais également pratiques, l'absence de bois pour faire des cadres dans les années qui suivent la Révolution française, etc. Ce type d'ouvrages donc, qui ont donné accès aux archives depuis l'intérieur de ces archives existent, et ils existent notamment au Louvre. J'en montre encore quelques-uns parce que je les utilise pratiquement quotidiennement. La correspondance de Dominique Vivant-Denon, premier directeur du Louvre, publiée aussi en deux volumes au moment de l'exposition du même titre, ou encore le livre qui ne quitte pas ma table de travail, l'inventaire en publication d'une partie de l'inventaire Napoléon, publication commentée, l'inventaire Napoléon, qui est la mémoire de ce qu'a été le Louvre avant les restitutions de 1815. Par ailleurs, donc ces archives ou les institutions, je me concentre sur le Louvre, j'évoquerai quelques publications berlinoises dans un instant, ont, grâce aux archives, pu reconstituer l'histoire de certains de leurs départements qu'on connaît parfois moins bien ou que le grand public connaît moins bien. Je vous montre ici le beau travail sur l'atelier de moulage du Louvre, son prénom m'échappe, de Florence Rionnet, qui redonne vie, en quelque sorte, ou qui donne visibilité à des endroits du Louvre que le grand public ne voit pas. Est-ce que ce qu'ont fait les archives du musée du Louvre toutes ces dernières années, et en fait, à vrai dire, depuis leurs origines, j'en ai d'autres posées par terre que je ne montre pas, d'autres institutions muséales le font, en particulier les musées de Berlin, qui ont même décidé de publier régulièrement des travaux sur leur histoire. Je vous montre le premier volume ici d'une série qui a été lancée par le premier directeur des archives du musée de Berlin, Jörn Grabowski, avec son adjointe de l'époque, Petra Winter, qui est la directrice actuelle. Volume, premier volume symboliquement consacré à l'histoire des Staatliche Museen, des musées d'État de Berlin, pendant la période du national-socialisme. Et ici, donc, c'est le travail sur les archives qui a permis de rendre visible et de reconstituer l'attitude de musées qui souvent ont été détruits pendant la Seconde Guerre mondiale et dont il ne reste qu'une trace reconstruite, si bien que ce type d'ouvrage est extrêmement important. J'en montre un autre ici parce que c'est dans le contexte berlinois aussi très caractéristique. L'histoire des musées partagés entre Berlin-Est et Berlin-Ouest, la grande thèse de Petra Winter, l'actuelle directrice des archives des musées de Berlin. Alors tout ça pour dire que les musées se sont déjà et toujours et très bien occupés de leurs archives et les ont rendues visibles à la communauté scientifique et au public en général, d'une part, mais d'autre part, ces archives depuis longtemps ont été ouvertes à des chercheurs et des chercheuses venus de l'extérieur qui venaient poser des questions particulières qui n'étaient pas forcément toujours dans la logique de l'institution et qui se complétaient du travail dans d'autres archives. Tout le monde connaît à Paris le travail. Je montre simplement deux travaux de la génération des jeunes chercheurs actuels. Tout le monde connaît la thèse d'Arnaud Bertinet, ici, que je remontre, elle brille dans l'écran, sur les musées de Napoléon III, qui est un travail de publication et de mise en connexion et de contexte des archives du Louvre avec les archives nationales éblouissant, mais encore du côté berlinois, par exemple, l'énorme travail, je montre d'abord sa masse et ensuite sa couverture, de Robert Skvirblies, consacré à la naissance, je montre bien ici, parce que la caméra prend du temps, voilà, consacré à l'achat de la collection Soli, qui a été en fait pratiquement la naissance de la Gemälde de galerie, de la collection de tableaux de Berlin, sur laquelle travaille d'ailleurs aussi notre collègue Neville Rollet, qui est intervenu hier et qui assiste aujourd'hui à la journée d'aujourd'hui, pardon, Neville Rollet, qui est conservateur à la Gemälde de galerie et au Bode Museum de Berlin. Tout le monde le connaît aussi à Paris. Voilà pour les mots que je souhaitais dire en introduction, avec toute ma reconnaissance reformulée au Louvre, aux équipes du Louvre et aux équipes du Collège de France pour leur patience, leur flexibilité, leur professionnalisme et leur joie de travailler sur ces questions. Je passe dans un instant la parole à Jean-Luc Martinez en signalant simplement que Marie Tchernia, qui est au Collège physiquement aujourd'hui, introduira les modératrices et les modérateurs des différentes tables rondes. Voilà, je vous remercie de votre attention et je passe très volontiers la parole à mon collègue et ami Jean-Luc Martinez. Merci.
Mesdames et messieurs, chers amis, cher Bénédicte, à mon tour, je me réjouis d'être avec vous, en ce qui me concerne physiquement, ce matin au Collège de France. D'abord pour nous réjouir que ces deux institutions continuent de travailler ensemble. Je voudrais rappeler en effet que cette collaboration, elle est maintenant ancienne. Elle a été particulièrement stimulée au moment de la création de l'Institut des civilisations à partir de 2012. Et c'est vrai que le Collège de France, par la diffusion aussi, par la valorisation de la recherche, reste pour nous au Musée du Louvre un modèle qu'on cherche parfois à imiter et un partenaire pour toutes les études que nous pouvons avoir en commun, et notamment, bien entendu, dans certains domaines. C'est l'occasion aussi de travailler ensemble pour des expositions, parce que nous, gens de musée, notre langue naturelle, c'est l'exposition. Et je voudrais rappeler ici cette belle exposition sur Mécha et la Bible, donc faite en 2018, et annoncer un certain nombre d'autres événements, puisque nous travaillons ensemble à une exposition sur la collection de papyri. Ce sera à l'automne prochain, et que régulièrement, comme c'est le cas aujourd'hui, nous partageons ces belles salles, la salle de l'auditorium du Louvre et cette magnifique salle du collège, bientôt d'ailleurs en hommage à Marc Fumaroli pour un colloque qui sera organisé une journée au musée du Louvre, une journée ici au collège. Alors ce partenariat, nous l'avons formalisé en quelque sorte en 2019 par une convention cadre, et le professeur Charpin est là pour en témoigner. Voilà, donc les relations sont nourries entre les différents chercheurs de ces deux maisons, et je voudrais saluer en effet le rôle que joue Bénédicte Savoie au sein du conseil scientifique du musée du Louvre, qu'elle a rejoint en 2015. Elle parlait tout à l'heure de regards croisés, voilà, de conservateurs et donc d'historiens. Je mettrai juste un petit bémol. Pour moi, les conservateurs doivent être des historiens, finalement pas comme les autres, mais des historiens tout de même. Alors, un mot pour revenir sur ces deux journées de colloque, pour réfléchir à la place de l'archive au musée, et pour, bien entendu, interroger la façon dont les musées incarnent une certaine mémoire collective. Bénédicte vient d'en dire un mot. Je pense que les professionnels le savent, mais moins le grand public. Il existe, en effet, des archives. Donc, au-delà de la question, donc, les objets sont-ils des archives de l'humanité, il existe des archives dans les musées. Le musée produit, comme toute administration, lui-même des archives, d'où une question, en effet, de comment les classe-t-on et comment fait-on pour laisser trace. Question parfois brûlante en ces moments où le numérique l'emporte surtout. Hein, donc, et on voit bien, quiconque a travaillé dans les archives des musées voit bien qu'il y a un décrochage à un moment donné dans la tradition administrative. Je ne parlerai que de la France, mais je pense que ça vaut pour beaucoup de pays. Et autant les archives du 19e siècle ou du début du 20e siècle sont parfois abondantes. Bon, malheureusement, certains de nos prédécesseurs ont parfois laissé très peu d'archives. Une des actualités du musée du Louvre, c'est de pouvoir, avec l'OPIC et avec le PGL et avec les Archives nationales de France, de pouvoir valoriser les archives du Grand Louvre, parce que nous sommes comme orphelins donc, de cette période, tant que ces archives ne sont pas donc véritablement accessibles. Donc ça signifie que, vous le voyez, il y a une vraie complémentarité, mais je parle depuis le monde des musées, c'est-à-dire le fait que nous, gens de musée, nous ne pouvons pas travailler sur les espaces qui nous sont confiés, sur les collections qui nous sont confiées, sans la connaissance donc de ce passé, passé pour construire aussi l'avenir, mais que bien entendu, nous ne prétendons pas, plus exactement, je devrais dire, nous ne prétendons plus, donc être les seuls à travailler de ce point de vue-là. Et plutôt que de parler de complémentarité, je pense simplement de différentes approches dans ce domaine. Et les quatre tables rondes qui ont été imaginées rendent compte justement de cette diversité d'approches. Je voudrais rappeler hier qu'on a parlé en effet de l'histoire des collections, hein, en matière d'acquisition notamment. Donc, dans la demi-journée qui s'est tenue à l'auditorium du Louvre. Aujourd'hui, on va parler de la question des fouilles. Et Bénédicte m'avait dit, justement, en siégeant au conseil scientifique du musée, une des choses qui l'avait le plus frappé, puisque au conseil scientifique du Louvre, au-delà des débats, en effet, sur telle ou telle pratique, c'est le lieu aussi d'exposition des programmes de recherche. Il y a plus de 200 programmes de recherche au musée du Louvre en cours. Et les chercheurs, les conservateurs, conservateurs du musée, donc présente au conseil scientifique cette recherche qui est ensuite au moins publiée dans un hors-série de la Grande Galerie comme trace de cette réédition de compte de cette recherche à un moment donné. Et Bénédicte m'avait dit combien elle avait été, non pas surprise parce qu'elle connaît mieux que d'autres ce monde des musées, mais combien les équipes de conservation du musée du Louvre étaient engagées dans un vrai travail de fond, notamment dans les départements archéologiques, sur la question justement donc de faire le lien entre une archéologie du passé, celle des 17e, 18e et surtout 19e et premier 20e siècle, qui a fait que ces objets sont aujourd'hui présents à Paris, et puis cette archéologie qui continue à se faire donc en France ou à l'étranger, se faire parfois, bien entendu, donc par beaucoup d'autres personnes. Comment faire le lien entre ces deux formes d'archéologie qui sont absolument nécessaires? C'est une évidence que je dis pour tous les archéologues, hein, puisque bien entendu, les archéologues commencent par faire la recension donc des fouilles du passé et à essayer de faire le lien. Mais vous voyez, il y a aussi là, parce que le monde archéologique a complètement révolutionné sa manière d'enregistrer aussi des données archéologiques dans la deuxième moitié du XXe siècle, et cette révolution de la discipline archéologique a eu des conséquences aussi donc sur le classement et le travail sur les archives donc des anciennes fouilles. Donc, et nous le verrons dans cette première table ronde ici au Collège de France, combien ces archives permettent à la fois de comprendre ces objets ici du passé, de les recontextualiser, mais aussi donc de permettre donc l'archéologie présente et du futur, donc en se juchant finalement sur les épaules de ceux qui nous ont précédés. La deuxième table ronde ici au Collège de France portera sur l'histoire des métiers et des publics. On voit bien que c'est la grande révolution épistémologique du XXe siècle, qui vaut pour tous les domaines, qui a placé l'élève au centre des recherches sur l'éducation nationale et qui a placé donc le visiteur, donc c'est la même démarche, donc au centre des recherches du musée. Pour autant, il est évident qu'on ne peut plus écrire l'histoire des musées sans se soucier des acteurs, au-delà, en effet, comme on le disait déjà hier, au-delà des personnalités qui émergent un peu dans les archives. Donc comment faire l'histoire de tous les acteurs à l'intérieur des musées et comment faire l'histoire des publics? C'est une des questions auxquelles on essaiera de répondre. Et puis, un domaine qui est selon moi peut-être le plus intéressant, en tout cas dans ma pratique professionnelle personnelle, c'est la question de la muséographie, la question de l'exposition, de la mise en scène, parce qu'elle pose deux défis. Le premier défi, c'est celui, bien entendu, de l'archivage. Comment on archive et comment on garde trace donc d'exposition. C'est un sujet vraiment très presque grave pour les musées, où on sait défaire, mais où on garde peu la mémoire des choses qui avaient été faites par nos prédécesseurs. Donc comment on garde cette mémoire-là, comment on se soucie aussi de l'archivage donc des expositions temporaires, mais aussi de la manière dont on a exposé les collections permanentes. Et je répète, hein, on a beaucoup perdu de ce point de vue-là depuis les années 80, donc dans la pratique de nos prédécesseurs. Et le deuxième défi, c'est bien entendu d'en faire quelque chose pour penser le musée d'aujourd'hui et de demain. Parce que s'il y a quelque chose qui distingue peut-être les gens de musée par rapport aux autres chercheurs, c'est bien entendu que nous avons la gestion de ça et la gestion physique de ces collections. Et donc ce savoir, la recherche dans les musées, elle est appliquée, c'est une recherche appliquée à la gestion de ces collections. Et je vois combien tous les jours, j'apprends, je continue d'apprendre, notamment auprès de l'architecte Michel Goutal. Donc, là aussi, hein, comment archiver le travail des architectes qui ont travaillé sur un palais comme le Louvre. Moi, personnellement, j'apprends tous les jours des choses nouvelles, parce que, au-delà des archives, les sondages, donc dans les sols, les plafonds, donc on peut faire une archéologie également des musées. On le sait pour les jardins, mais je vous assure aussi que tous les jours au musée du Louvre, on apprend et on vérifie des choses nouvelles. Je vous donne un exemple qui paraît anecdotique, mais nous sommes en train d'imaginer et revoir les salles romaines qui sont dans les appartements de la reine. Donc inutile de vous dire que là, un certain nombre de sondages ont été faits et que dans la salle dite de l'Afrique, qu'on croyait bien connaître, hein, celle des mosaïques et des peintures romaines, qu'on connaissait bien grâce aux archives, au moment où elle devient galerie de l'Afrique romaine dans les années 1895, il y a eu un état avec une mezzanine, un état pensé par Le Fuel, dont on a retrouvé les archives, mais ça a commencé d'abord par des sondages qui ont révélé que cette salle avait été coupée en deux, donc pour un usage qu'il reste encore à essayer de comprendre. C'est la raison pour laquelle, comme l'a dit Bénédicte, on a voulu au musée du Louvre rendre visible cette recherche, déjà comme d'autres musées, en lui donnant un lieu. Ce lieu, il existe. Donc, c'est à l'intérieur de chacune des conservations aussi, donc les documentations, donc tel ou tel d'entre vous fréquentait. Mais avec la création du Centre Dominique Vivant-Denon, symboliquement qui porte le nom du premier directeur du musée du Louvre, on a voulu aussi rendre visible cet accueil, faire du Louvre cette plateforme, ce lieu où les chercheurs qui s'intéressent aux collections du Louvre et qui s'intéressent donc à ce palais, à ces jardins, puissent se rencontrer et venir travailler ensemble. Je voudrais simplement, en guise de conclusion, dire que ce qu'on attend peut-être des gens de musée, c'est cette générosité qu'ils ont, qui consiste justement d'abord à décrire les archives qu'ils connaissent, à les rendre, à les publier, à les rendre consultables. Et je voudrais saluer le travail que les équipes de conservation du Musée du Louvre viennent de réaliser sous la houlette de la Direction de la Recherche et des Collections, qui consiste à la mise en ligne des collections. Vous savez qu'en mars, nous avons ouvert un nouveau site internet du musée, qu'à l'occasion de l'ouverture de ce nouveau site internet a été rendue accessible notre base de données, collection en ligne. Voilà 40 ans que l'État a donné les moyens aux conservateurs du Louvre d'informatiser ses collections, mais que pour la première fois, elles sont accessibles. Donc le Louvre fait un pas immense, c'est plus de 480 000 notices d'œuvres qui sont accessibles, c'est-à-dire pas seulement les 35 000 œuvres qui sont conservées au palais, pas seulement les 35 000 œuvres du Louvre qui sont conservées dans les musées de région, donc ça fait déjà beaucoup, mais toutes celles qui sont en réserve et qui permettent de nourrir véritablement la recherche. Donc aujourd'hui, et on reçoit tous les jours des questions, la question des provenances, la question des dates, la question des photographies, au Louvre a pris une autre dimension avec la mise en ligne de ces collections, et n'en doutons pas, les questions dont nous allons débattre aujourd'hui, c'est-à-dire mais comment reconstitue-t-on la biographie d'un objet, va prendre une nouvelle dimension, parce que je rappelle que le travail de fond, de base, et c'est la raison pour laquelle un conservateur est un historien, d'un conservateur, c'est le récollement. Qu'est-ce qu'un récollement ? C'est bien faire le rapprochement physique d'abord, intellectuel bien entendu, entre un objet et une source d'archives. Et c'est la raison pour laquelle, et je suis très fier que le musée du Louvre ait accompli de telle manière son premier récollement décennal, en arrivant à identifier plus de 98% des objets que nous conservons, ce qui est déjà énorme. Mais ce travail, vous voyez, de récollement, qui est un travail quotidien, fait que nous nous plongeons tous les jours dans les archives, mais pour revenir aux objets. Donc c'est ce va-et-vient qui va faire l'objet des trois tables rondes de cette journée entre objets, archives, archives, objets. Bon débat.